un empereur au top du box-office et le retour du réalisateur à plus de 2 millions d'entrées en 2019. Ladjli qui sera avec nous sur ce plateau, c'est Opening Weekend et c'est parti.
Débriefing, c'est un mot valise, il faut le rappeler.
DiCaprio peut me dire merci.
C'est hyper beau le cinéma.
On a affiché complet partout.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Finalement, ce qui est important, ce sont les gens.
Des gens âgés qui mettent des lunettes.
Ils arrivaient à faire une estimation
comme des observateurs du cinéma.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le 51e numéro d'Opening Weekend, enregistré pour la troisième fois consécutive depuis l'UGC Cinécité La Défense. Et on remercie toute l'équipe du cinéma de nous accueillir toujours aussi chaleureusement pour ce soir, une avant-première d'un film que tout le monde attend en cette fin d'année. C'est le nouveau film de Ladjli. On le rappelle, Ladjli, réalisateur du film Les Misérables, qui en 2019 avait fait plus de 2 millions d'entrées. Pour l'occasion, il n'est pas venu seul puisqu'il est accompagné de son actrice principale, Anta Diot. Bonjour Anta.
Bonjour.
Également à vos côtés, Aristote Louyindoula. Bonjour Aristote.
Bonjour.
C'est votre premier film, on va y revenir dans quelques instants. Valentin Dupacte est également avec nous.
Bonjour.
Salut Valentin. Et puis, je le disais, Ladjli qui va arriver d'une minute à l'autre, accompagné, parce qu'il n'est pas tout seul non plus, d'un autre acteur, à savoir Nabil Akrouti, qui sera là également à ce micro. Autant dire que vous êtes venus en nombre et pour cause, car le film est extrêmement attendu. J'imagine pour vous, déjà, ça doit être un peu nouveau, tout ça, même si vous l'avez peut-être connu en tas avec Le Jeune Imam, des avant-premières de ce type, mais ça reste, j'imagine, quelque chose d'un peu nouveau.
Oui, complètement. Avec Le Jeune Imam, c'est vrai que j'avais un rôle secondaire, donc j'ai pas forcément eu la chance de participer à la promo. Et là, je le vis vraiment du début jusqu'à la fin, et c'est vrai que c'est assez ouf.
Et vous, Aristote, vous aviez l'habitude, en tant que spectateur, d'aller à des avant-premières de temps en temps ?
Ouais, moi, je suis un gros fan de cinéma. Après, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup d'avant-premières, mais là, de voir un peu l'envers du décor, c'est assez incroyable.
D'accord. Qu'est-ce qui vous surprend le plus quand vous dites c'est incroyable ?
C'est l'enthousiasme qu'on peut voir chez le public. Déjà aussi, c'est le fait de voir sa tête projetée sur un écran. Parce que moi, j'ai grandi avec les abonnements cinéma et j'allais tout le temps au cinéma. Et je rêvais un jour, moi, de voir mon nom ou de participer à une histoire. Et là, du coup, de le faire en plus avec l'âge, c'est quelque chose de pas mal. C'est assez ouf.
Alors pour nous accompagner dans cette émission, je ne les ai pas cités, mais ils sont à mes côtés, bien entendu, à commencer par Arthur Pavlovski. Salut Arthur.
Bonsoir à toutes et à tous.
Salut Max.
Salut.
Et bien sûr Charlotte. Salut Charlotte.
Salut.
Je le disais, on va retrouver tout à l'heure nos rubriques habituelles, hein, mais là l'événement est de taille. Et on commence tout de suite par cette petite interview avec vous. On a vu le film, on a eu cette chance et ça a été un vrai choc de découvrir un tel film. On a beaucoup dit au moment des Misérables à quel point c'était une claque, mais celui-ci en est une autre, un peu peut-être différente du premier sur d'autres aspects. Qu'est-ce qui vous a tout de suite interpellé dans le scénario que vous avez pu lire ?
Alors moi, pour ma part, je dirais que c'est le personnage d'Abby. On n'a pas forcément l'habitude de voir au cinéma des personnages féminins, noirs, issus de banlieue. Et du coup, ça m'a tout de suite mis une claque, ouais, de découvrir Abby.
C'était effectivement, alors on peut rappeler un peu de quoi parle le film, puisqu'on suit en fait plusieurs personnages tout au long de ce film qui commence par, on va pas trop spoiler parce qu'on peut avoir vite tendance un peu à en dire trop, mais on commence par en gros un cercueil qui descend dans un immeuble. On comprend progressivement que des gens sont amenés à quitter cet immeuble et qui va être détruit, c'est dans la deuxième scène du film, et après, suite à cette première destruction, on suit d'autres personnages, notamment un personnage d'aspirant maire qui va en tout cas profiter d'une situation pour devenir maire, et puis vous qui êtes très impliqué dans la vie associative et qui allez, on va dire, de fil en aiguille, vous projeter peut-être dans un autre destin que celui de la vie associative. Est-ce que c'est bien si je dis ça sans trop en dévoiler ?
C'est parfait.
Et vous, Aristote, vous côtoyez vous côtoyez tous les deux en fait dans le film, et vous allez suivre aussi une autre trajectoire. On peut pas trop en dire non plus, mais on peut dire quand même qu'il y a une scène extrêmement marquante entre vous deux et qui marque un peu un point de décalage, qui est une scène, on va dire, de mise à feu d'une affiche d'ailleurs. Cette scène, elle est vraiment frappante. J'imagine qu'à jouer, ça a été un moment fort pour tous les deux.
Oui, oui, complètement. Ça a été un moment fort parce que là, pratiquement tout joue sur des regards et sur ce que chacun voit de l'avenir et de comment régler le problème. C'est là qu'on voit un peu qu'il y a une sorte de fracture qui se crée entre Abby, qui a une certaine vision des choses, et Blaze, qui en a une autre. Exactement. Totalement différente. Et voilà, quoi.
Et alors, donc, vous, c'est votre premier film. Comment vous avez été repéré pour, et approché par l'Adji pour ce film?
L'histoire, elle est assez marrante parce que je sais que après coup, que l'Adji m'a raconté qu'apparemment, ils avaient du mal à chercher Blaze, à trouver un comédien pour Blaze. Et en fait, moi, je suis arrivé un peu à la dernière minute. Il s'est passé quoi? Entre le moment où j'ai été validé sur le casting et le tournage, il y a peut-être eu une semaine. Et en fait, ça s'est passé, je me rappelle, pendant la période de la Coupe du Monde. C'était France-Australie. Je reçois le casting par mon agent. J'ai même pas la soirée pour travailler le texte. Donc j'y vais en me disant, bon, ok, on m'envoie le casting de ma vie et j'ai même pas le temps de le préparer. Donc vas-y, on va y aller comme ça, on verra bien. Et puis en vrai, l'objectif vraiment, parce que j'ai l'habitude de passer des castings, mais voilà, on sait qu'avec les castings, c'est jamais de son ressort. Donc on y va un peu en se disant, bon, on verra bien. Et là, je me dis que c'est tellement énorme et tellement gros que vas-y, ça va être compliqué de l'avoir. Mais je suis heureux d'une seule chose, c'est de pouvoir voir l'Adji et de lui dire merci pour Les Misérables. Parce que pour la première fois au cinéma, je me suis dit que, ah oui, en fait, il y a de la place pour nos histoires, d'autres histoires. Et premier tour, je vois pas l'Adji, donc je suis dégoûté. Il y a une forme de truc qui se crée en moi qui me dit, vas-y, il faut absolument que tu le rencontres. Et je sais pas, j'ai le premier tour et au deuxième tour, il est là. Donc pour moi, le casting se finit en fait dès le moment où je lui serre la main et que je lui dis merci pour Les Misérables. Derrière, le feeling passe et puis j'ai été validé pour le rôle.
Et alors, Anta, vous, c'est plus sur le tournage du jeune imam. Je crois que vous avez été, en prémisse du tournage du jeune imam, que sur le casting, que vous avez été repéré. Là aussi, vous n'aviez pas forcément fait de rôle avant.
Non.
Comment ça s'est passé?
Alors moi, effectivement, j'ai jamais eu d'expérience avant le jeune imam dans le cinéma. J'ai juste toujours été passionnée par l'acting. Et un beau jour, j'ai décidé de me lancer dans les castings et je tombe sur cette annonce pour le rôle d'Iman dans le jeune imam de Kim Chapiron. Et je rencontre l'Adji pendant les castings. Et derrière, du coup, on apprend à se connaître aussi sur le tournage parce qu'il est là souvent. Donc le tournage se passe très très bien. Et à la suite de ça, j'apprends qu'il recherche aussi son rôle, un rôle pour son prochain long métrage. Et là, je me dis qu'il ne faut pas que je passe à côté.
Et justement, vous avez participé à ces deux tournages, deux films sous le label Courtrajmé, si on peut dire, et deux films qui, chacun dans leur registre, que ce soit pour Kim Chapiron ou pour l'Adji, marquent aussi peut-être un tournant dans la réalisation de ces réalisateurs, plus posés, peut-être avec plus de moyens aussi. Qu'est-ce que vous avez constaté comme différence entre l'un et l'autre dans la façon de travailler?
C'est une bonne question, ça. Ils sont assez différents, mais assez similaires à la fois. Parce qu'en fait, avec Kim... Avec Kim, c'est très, très... Tout est dans la rigolade. Ouais. Kim est très posé et j'ai l'impression qu'il ne se prend jamais trop au sérieux. Donc l'ambiance est très, très familiale. Tout le monde rigole, tout le monde prend du plaisir à participer au tournage. Et avec l'Adji, j'ai senti que c'était... comment dire? Il y avait beaucoup plus de moyens déjà que sur le jeune imam. Donc c'était très, très impressionnant pour moi qu'il y avait pour comparaison que l'expérience du jeune imam. Et l'Adji, en fait, il a cette vision qui est très très claire, on comprend très vite ce qu'il recherche. Et ce qui était étrange pour moi, c'est qu'on n'avait pas besoin de se parler, en fait. On comprenait directement ce qu'il voulait avec, je ne sais pas, un regard, on arrivait à savoir ce qu'il voulait derrière. Et du coup, j'ai trouvé l'expérience très 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 calme. Bizarrement.
Ce que je trouve très impressionnant dans vos deux cas, c'est que vos personnages suivent une trajectoire, comme je disais tout à l'heure, qui va vers une forme de plus en plus poussée, en fait. Enfin, il y a un crescendo, on va dire, dans le film. Ça a joué, quand vous avez peu ou pas beaucoup d'expérience, c'était compliqué, c'était au contraire instinctif. C'était comment vous avez appréhendé ça, ce côté de, on va dire, qui va de plus en plus fort dans le film?
Moi, j'avoue, j'avais une petite appréhension quand même, parce que du coup, c'était mon premier rôle au cinéma. En plus, c'est avec l'Adji, et le scénario est tellement incroyable que je me dis, ok, comment je vais faire pour porter ce personnage et défendre ce personnage? Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, en fait, c'est le fait que l'Adji est tourné à Clichy et Montfermeil, en fait. Ouais. Et du coup, entre les prises, on peut parler avec les habitants, on peut regarder l'état du bâtiment, et en fait, il suffit juste d'être un peu poreux en fait par rapport à tout ça et les choses viennent très doucement parce que comme elle l'a dit Anta, là j'ai une vision très très claire des choses, donc en fait nous on a juste à être ouvert un peu à tout ce qui se passe autour et puis en fait à réussir à canaliser en fait toute cette énergie et tout ce truc en fait sous-jacent pour l'adge et pour la caméra.
Et vous Anta?
Moi je dirais que c'est le fait déjà dans un premier temps d'avoir tourné sur les mêmes lieux que le jeune imam, ouais. Et il y avait aussi pas mal de personnes de l'équipe technique.
Même si dans le film ça ne se passe pas dans les lieux où ça a été tourné, il faut le préciser, puisque à l'inverse des Misérables c'est une ville fictive, ouais. Montvilliers, c'est ça Montvilliers?
Exactement, Montvilliers. Mais oui effectivement le jeune imam ça se passait, on a aussi tourné à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, comme dans Bâtiment 5, et surtout on a retrouvé aussi pas mal de personnes de l'équipe technique qui avaient participé aux Misérables, qui ont participé aussi au tournage du jeune imam, et là que je retrouvais du coup. Et forcément, le fait de tourner avec des acteurs comme Steve Tientieu, comme Alexis Mananti, qui nous ont vraiment accueillis à bras ouverts, ça a facilité les choses. Et derrière aussi, la chance qu'on a eue avec Aristote, c'est qu'on s'est tout de suite très très bien entendu. On se retrouvait un petit peu dans la même aventure, et il fallait absolument qu'on se soutienne pour arriver à mener à bien ce projet-là. Donc on va dire que toutes les planètes étaient alignées, quoi.
Un mot peut-être de Valentin qui est à vos côtés en tant que représentant du Pacte. Valentin, c'était une évidence pour vous, j'imagine, au Pacte d'aller sur le nouveau film de Ladjli, surtout que vous avez également sorti Le Jeune Imam, il faut le rappeler, en ce début 2023.
Non, on a hésité, hein. 2 millions c'était pas assez, donc du coup... Non, bien sûr, évidemment, c'était une évidence de vouloir retravailler avec Ladjli, avec toute l'équipe de Strab aussi, etc. Et on est extrêmement heureux de porter ce film à l'écran, donc le deuxième film de l'âge. Et ça a été une expérience, enfin c'est encore en cours, hein, parce qu'il n'est pas encore sorti.
Oui, mais il sort d'ailleurs pas cette semaine, mais la semaine prochaine.
Voilà, le 6 décembre. Mais depuis qu'on a commencé vraiment à travailler sur le film, depuis qu'on a commencé à faire cette tournée, je trouve petit à petit le film prend corps de plus en plus. On le sent arriver. Et il se matérialise. Et c'est une très belle expérience, une tournée qui a été... assez intense et un peu différente de celle dont on a l'habitude de faire sur d'autres films. Par exemple, parce qu'on a essayé de mettre en place sur Bâtiment 5, à chaque fois qu'on se déplaçait dans des grandes agglomérations, c'est de prendre le temps d'aller à la rencontre justement aussi des gens qui sont confrontés aux problématiques qui sont évoquées dans le film de l'Agile dans Bâtiment 5, c'est-à-dire grosso modo les problématiques de logement, de délabrement de bâtiments, de copropriétés dégradées, et d'aller aux rencontres de ces personnes-là et de pouvoir échanger aussi avec eux. C'était d'une certaine façon incarner la tournée par ces personnes-là.
Très bien, et donc la date était aussi peut-être une évidence, parce que ce qu'il faut préciser, et qu'on ne dit peut-être pas assez sur le film, c'est que c'est aussi un film de Noël à sa façon. Le film se passe à Noël, il sort effectivement le 6 décembre, comme tu le soulignais. On rappelle quand même que Les Misérables, c'est le plus gros succès de l'histoire du Pacte.
Exactement.
Plus de 2 millions d'entrées, seul film à avoir passé le cap des 2 millions au Pacte. Donc c'est vraiment important d'arriver derrière, hein. C'est pas évident non plus. Pour vous, c'est une grosse sortie, je crois que tu m'as parlé de 400 copies.
On va sortir aux environs un peu plus de 400 copies.
Ouais.
Ce qui est plus ou moins le même plan de sortie que Les Misérables, qui était sorti à un poil plus, 450, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, non, c'est une très grosse sortie. On investit énormément pour l'accompagner au mieux dans les salles et dans les médias, et on espère que ça sera un succès en salle, un succès auprès du public. Et
on va suivre ça évidemment de près, mais en attendant de nous orienter pour la suite de cette interview, eh bien, on va tout de suite faire un petit point sur le box-office US et international. Alors évidemment, vous pouvez intervenir s'il y a des films que vous avez entendu parler, vous avez vu ou quoi, n'hésitez pas. Je me tourne vers Max pour le début de ce box-office US international.
Et donc le box-office US et international sont dominés par deux grosses sorties cette semaine, à savoir Napoléon et Wish. Il faut savoir que c'est le week-end de Thanksgiving qui vient de s'écouler aux États-Unis, donc on a deux lectures, c'est-à-dire il y a le week-end de 3 jours comme d'habitude, vu qu'en général les sorties sont le vendredi, et exceptionnellement les films qui sortaient cette semaine aux États-Unis sont sortis le mercredi, et ils ont donc des week-ends qui ont duré 5 jours, ce qui augmente un petit peu leur résultat quand on regarde par rapport aux comparables. Donc en tête sur le week-end qui vient de s'écouler, c'est Napoléon qui a réalisé aux États-Unis un score de 20 400 000 dollars. Ça, c'est si on regarde sur 3 jours. Si on regarde sur les 5, c'est 32 500 000 dollars. C'est un score qui est supérieur à ce qu'a fait Killers of the Flower Moon, qui avait fait 23 millions. C'est inférieur à ce qu'avait fait Oppenheimer, évidemment, qui avait fait 82 millions. On peut estimer une fin de vie pour Napoléon aux États-Unis entre 80 et 100 millions, à peu près, en fonction de la tenue. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre.
Et oui, ben voilà, on le disait à l'instant, mais Lajli vient d'arriver. Il n'est pas seul puisqu'il est accompagné de Nabil Akrouti. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être à nos côtés donc dans Opening Weekend. On faisait un point à l'instant sur le box-office international et US. Donc n'hésitez pas à intervenir si vous avez envie sur ce que vous entendez. On parlait de Napoléon qui effectivement truste la première place, et on va en reparler aussi dans le box-office France.
Exactement, avec une grosse part de l'international sur Napoléon, plus grosse que ce qu'on a l'habitude de voir. Le week-end au global, il est à 115 millions de dollars, ce qui est légèrement inférieur à la semaine dernière, il était à 132. On est nettement plus bas que ce qu'on voit en général sur les week-ends de Thanksgiving pré-Covid. On est plutôt en général autour des 260 voire 300 millions de dollars sur les 5 jours du week-end. Donc là on est quand même bien en dessous. On est quand même au-dessus de ce qu'on avait l'année dernière en 2022, où on était à 134 millions, donc c'est 25% plus haut.
Ouais.
On
est sur pas négligeable quand même. Hein. Rappelons quand même qu'on est dans une phase où on essaye de retrouver des chiffres d'avant 2020, et là on est quand même 25% plus haut sur la même période que l'année dernière.
Exactement, on est sur la belle dynamique de 2023, hein, qui est quand même nettement supérieure à 2022, même si on est quand même en dessous des très grosses années pré-Covid. Ouais. Donc ensuite, on a Wish, dont on va parler quand même, qui a démarré donc aux États-Unis et sur très peu de territoires. Il a ouvert sur 28 territoires seulement.
Wish, c'est le Disney, hein, pour ceux qui se demanderaient, mais qui est sorti là dans quelques territoires, et surtout au Grand Rex, on va en reparler tout à l'heure.
Exactement. Qui fait donc 36 800 000 dollars sur le worldwide et 17 300 000 dollars sur les États-Unis uniquement. Ou pardon, 19 500 000 dollars sur les États-Unis uniquement. On a Hunger Games qui s'en sort très bien pour son deuxième week-end avec une chute très limitée. Et il cumule aujourd'hui 98 millions de dollars sur le domestique et 197 millions de dollars sur le worldwide sur deux week-ends uniquement. Donc il est déjà quasiment 200 millions au global. C'est un très bon score en fait pour le film. On trouvait qu'il y avait un démarrage un petit peu mou la semaine dernière, mais il s'en sort très bien.
Bah, il a des bonnes critiques, hein. Je crois qu'il est en tout cas apprécié des fans.
Ouais, il a l'air, franchement, les retours et les tenues sont plutôt bons. Ensuite, on va parler de Trolls Band Together, qui, pour son deuxième week-end, rassemble 17 500 000 dollars aux US. Il arrive à un cumul de 64 millions. Sur le worldwide, pardon, il est à 20 millions de dollars et il cumule 145 millions, donc un bon score aussi pour Trolls 3. Voilà. Et ensuite, on a The Marvels.
La déception de The Marvels continue.
La déception de tous les films Marvel, évidemment, qui quand même est à un cumul de 187 millions de dollars sur le worldwide et 76 millions de dollars sur le domestique. Alors, c'est une déception pour les Marvels. On est très loin de même du plus mauvais Marvels, qui avait fait plus de 130 millions de dollars au domestique et 260 millions de dollars sur le worldwide. Mais on est quand même au-dessus. On va finir en tout cas au-dessus des Blue Beetle ou The Flash, qui sont les films d'ici et des films de 2023. Donc on voit qu'en fait c'est une déception. Mais si on le met par rapport aux films de super-héros de l'année, c'est pas non plus la catastrophe qu'on imagine un petit peu en ce moment.
Marvel, la marque résiste un petit peu. À noter également dans ce top international, un film coréen et deux films chinois.
Ouais, je te laisse parler des films chinois.
Film chinois, on a Across the Furious Sea, c'est toujours impressionnant, hein, 24 millions juste en Chine. Ça, c'est vraiment le genre de film dont on ne parle pas. C'est encore une fois un film plutôt thriller. On voit que les thrillers marchent bien en Chine. Et puis un autre film, She's Magnificent, qui lui fait 5 millions, là aussi uniquement en Chine. C'est un film, une sorte de biopic adapté de la vie d'un professeur, donc plutôt drama, qui donc démarre à la 10e place de ce box-office mondial, donc c'est quand même dire le poids de la Chine dans ce box-office. Et on parlait aussi d'un film coréen, Max.
Un film coréen, en effet.
Tu as vu la bande-annonce, je crois.
Ouais, j'ai vu la bande-annonce en coréen non sous-titré, c'était pas évident à comprendre. 12 The Day, qui est également nommé Seoul Spring à l'international, qui rassemble 11 894 000 dollars sur le seul territoire coréen. Ce qui est énorme. On pourrait se dire qu'on aimerait bien avoir des succès pareils en France, ouais. Mais il faut savoir que le film fait 80% du box-office coréen sur les week-ends.
Ah oui.
Et en fait, on n'aimerait pas trop avoir un marché comme ça en France.
Voilà, pour le tour d'horizon complet, je ne sais pas si vous avez entendu parler de quelques-uns de ces films autour de cette table. En tous les cas, ça donne une image comme ça. Nous, on a à cœur chaque lundi de revenir sur ce qui se passe un peu partout dans le monde. Et on va revenir maintenant, sans plus tarder, à la sortie qui nous intéresse. On le rappelle ce soir, à l'avant-première de Bâtiment 5. Le nouveau film de Ladjli ici présent. Merci déjà d'être avec nous ce soir. C'est un événement, on le rappelait tout à l'heure, le plus gros succès du pacte à date reste Les Misérables à plus de 2 millions d'entrées. Évidemment, passer après ce succès, c'est toujours... C'est comme quand un artiste sort un premier album qui cartonne, le deuxième est toujours très attendu et c'est jamais un moment très simple non plus, j'imagine, à l'écriture.
C'est sûr que c'est vraiment pas évident après un succès tel que Les Misérables. Voilà, on se pose beaucoup de questions. Bon, le film sort dans une dizaine de jours, on est en pleine promo. On verra bien ce que le public dira, mais en tout cas, voilà, grosse pression et on espère vraiment que le public sera au rendez-vous.
En tout cas, on est plusieurs autour de cette table à évidemment avoir vu le film et je voulais vous féliciter parce que c'est vraiment un film extrêmement différent déjà du premier et qui, à mon sens, va vraiment aller chercher une analyse de la société qui est là aussi peut-être encore plus fine que dans Les Misérables avec, on en parlait tout à l'heure, des personnages magnifiques qui sont en partie incarnés autour de cette table, mais qui ont surtout chacun une trajectoire très forte et qui nous permettent d'avoir différents points de vue sur un même événement. C'était aussi, j'imagine, une volonté pour vous d'aller chercher comme ça chaque point de vue dans la société, à la fois celui d'un jeune maire ou aspirant maire et qui se trouve un peu embarqué dans des décisions qu'il n'aurait peut-être même pas prise d'ailleurs autrement, mais parce qu'il a ses fonctions et qu'il revêt ce costume, il prend ces décisions-là. Et puis d'autres personnages qu'on mentionnait tout à l'heure, qui eux aussi vont suivre une trajectoire singulière. C'était la volonté de départ peut-être ?
Oui, je pense que c'était la volonté de départ. Déjà, j'avais surtout envie de faire un film différent des Misérables. C'est clair que je me suis dit qu'on allait m'attendre un peu au tournant, et d'autant plus que beaucoup de personnes attendaient vraiment la suite des Misérables. Donc voilà, j'ai pris un peu... les choses à contre-pied. J'avais envie d'un film plus politique, plus engagé, un film plus personnel aussi, parce que le bâtiment 5, c'est une histoire avant tout qui m'est personnelle, parce que j'ai grandi dans ce fameux bâtiment 5. Donc voilà, j'avais envie d'un film engagé, en tout cas pour mon second film, avec des personnages forts, comme le personnage de Abby, qui est cette militante qui va se battre, qui va militer, qui va finir par monter son propre parti politique. Et
je voulais pas trop en dévoiler non plus sur le film, parce qu'après on va spoiler pour ceux qui l'ont pas vu.
Voilà, des personnages assez forts, mais en tout cas, l'image de Blaze aussi.
Exactement.
Vous allez découvrir un peu tous nos persos dans ce film.
Et je vais juste revenir un instant sur une scène qui, moi, m'a profondément marqué. Là aussi, sans trop vous en dévoiler, une sorte de scène de manifestation dans la rue. Sur laquelle on met plusieurs noms, en fait. On la désigne de plusieurs façons, et c'est presque l'enjeu de la scène de dire si c'est ça ou si c'est autre chose. Et je trouve que dans le film, il y a souvent... C'est aussi une réflexion sur le langage et sur la façon de nommer des choses, de les désigner. On sent qu'il y avait cet enjeu aussi d'aller peut-être derrière les a priori et d'aller voir un peu, encore une fois, comment se passent les choses de chaque côté, de chaque point de vue. Quoi,
ouais,
en fait.
Bah oui, pour moi c'était super important, parce que je connais assez bien le sujet, j'ai grandi dans ces quartiers. Et en faisant ce film, j'avais envie d'une certaine justesse et de raconter la réalité du terrain, parce que malheureusement on a souvent tendance à parler de nos quartiers à travers les médias, nos politiques. Et nous, en tant qu'habitants, on estime qu'il y a un fossé qui est énorme entre ce qu'ils racontent et la réalité. Donc moi, en tant qu'artiste, mon rôle, c'est vraiment ça, c'est de témoigner de la réalité sans forcément prendre parti, sans porter de jugement sur mes personnages et d'écrire ce que ces habitants peuvent vivre.
Max ?
Et ouais, sur justement dans ce film, par rapport au Misérable où il y avait vraiment beaucoup de tension et beaucoup de et des scènes très très prenantes, là on sent qu'il y a une violence qui est beaucoup plus froide qui est montrée. Comment on fait pour justement retranscrire quelque chose d'aussi froid en fait dans un film?
Bah, c'est vrai que c'est une autre forme de violence si on va comparer au Misérable. Et j'ai même l'impression que c'est une violence beaucoup plus dure qu'on subit, parce que malheureusement, ces habitants vont subir le fait d'être expropriés, le fait d'être délogés. Donc c'est une violence beaucoup plus dure que sur les Misérables. Donc oui, j'avais envie de parler de ça, parce que voilà, c'est des choses qu'on a vécues qui nous ont beaucoup marquées, voire traumatisées certains habitants.
Alors Nabil, on vous a pas encore entendu, vous avez un petit rôle dans ce film, vous jouiez également dans Le Jeune Imam dont on parlait tout à l'heure et dont on va reparler ensuite, mais vous êtes aussi quelqu'un qui a beaucoup œuvré depuis que le film est terminé auprès des associations, je crois, pour faire connaître le film et l'amener jusqu'au spectateur.
Tout à fait. Donc en gros, j'ai grandi avec Ladj dans ce fameux bâtiment 5. Donc c'était un projet qui me tenait assez à cœur. Et pouvoir déjà juste participer, certes j'ai un très petit rôle, mais pour tous ceux qui vont voir le film, je suis l'acteur principal de la première scène.
Gros, et quelle première scène, voilà,
c'est comme
quelle
ça que je me définis, parce que... sachez-le.
ça commence très fort quand même, cette
donc,
scène.
Voilà, et après à côté, oui, c'est vrai que là je travaille beaucoup avec les associations et on essaye de donner une âme à ce film-là et faire ce croisement entre la réalité et la fiction. Et des fois, on se rend compte que quand on va travailler avec les associations, que la réalité même dépasse la fiction très, très souvent. Donc, voilà. Donc, on essaye de mettre en avant toutes ces associations, toutes ces personnes qui se battent pour le combat que nous, on a pu mener à l'époque. Et malheureusement, nous, on a été battus parce que voilà, notre immeuble a été détruit. Et la petite anecdote qu'on raconte assez souvent avec Ladj, c'est que la dernière personne à sortir de cet immeuble-là, c'était ma maman.
Ah oui.
Donc, elle n'a pas voulu partir. Elle ne voulait pas, en fait. Et elle est restée dans l'immeuble toute seule. Donc, une barre de 10 étages avec plus de presque 200 appartements à l'intérieur. Donc, elle était vraiment toute seule dans tout l'immeuble. Et au final, elle est partie à contre-cœur, malheureusement. Et grosse dépression derrière. Et on a eu ce cas de figure, là je parle de ma mère parce que c'est personnel, mais sinon on a eu beaucoup de mamans et beaucoup de personnes qui ont été dans ce cas-là. Et c'est pour ça que là on essaye de mettre en avant aussi les associations et toutes ces personnes qui se battent vraiment pour essayer d'éviter ce que nous on a vécu. Donc voilà, et normalement on a une projo prévue à l'Assemblée nationale.
D'accord.
Et donc on est en train de voir pour pouvoir inviter ces associations en fait avec qui on a pu faire le tour de France. Parce que dans chaque ville où on a été, on a rencontré des assos. Et donc, on aimerait bien les avoir avec nous le jour où on sera à l'Assemblée pour la projection, pour qu'elles puissent parler et en fait leur donner le micro, pouvoir les laisser s'exprimer et mettre en avant leurs problèmes. Quoi.
Parce que c'est vrai qu'on, enfin, sincèrement, on voit rarement, voire on n'a jamais vu ça à l'écran. Ne serait-ce que, je le disais, la première scène du film qui est sur le papier, on va dire quelqu'un qui descend un cercueil dans une cage d'escalier, ça peut paraître un peu... Enfin, plusieurs personnes qui descendent ce cercueil, ça peut paraître un peu étonnant, mais mis à l'écran, c'est assez fascinant en fait. D'autant que cette descente dans l'immeuble, c'est aussi quelque chose qu'on va voir plusieurs fois, puisque et au moins une deuxième fois avec une autre descente. Il y a vraiment ce mouvement du haut vers le bas quand même qu'on voit plusieurs fois dans le film. Cette première scène, elle vous est venue naturellement. C'était surtout qu'elle précède une autre scène qu'on voit dans la bande-annonce d'un immeuble qui s'écroule. C'est venu naturellement comme ça, cet enchaînement, ou c'est...
Ça vient naturellement, parce que malheureusement, c'est les choses qu'on a vécues. Tout ce que vous voyez dans le film, c'est vraiment inspiré de vraies histoires. Donc voilà, c'est des choses qui marquent. On a une séquence qui dure plus de 5 minutes avec cette descente du cercueil que vous allez découvrir. C'est une scène qui est très dure. Il y a une phrase qui est dite... pendant la descente, elle dit clairement qu'on vit dans des conditions difficiles et on meurt dans des conditions difficiles. Donc elle en dit long sur ce que peuvent vivre ses habitants.
Mais, question portée à la fois sur évidemment l'aspect social de cette scène, mais aussi sur l'aspect cinématographique, parce que de ce point de vue-là, c'est aussi très fort. C'est ça que je veux dire en fait. Et c'est pas forcément évident de commencer un film tout de suite, de mettre les gens dans la situation.
Non, j'entends, mais... tout cas, pour moi, c'était important d'avoir une scène d'ouverture assez forte.
Ouais.
Clairement, on ouvre le film avec ce fameux plan drone où on fait un petit clin d'œil aux Misérables, et ça permet aussi de découvrir la cartographie de la ville, ce fameux bâtiment 5. Et la première scène d'ouverture, j'avais envie d'un truc très fort, très touchant. Et pour moi, c'est important, en tout cas, d'ouvrir ce film-là avec une séquence qui marque et qui en dit long sur tout ce qu'on a pu vivre.
Oui, moi du coup, ce que j'entends, c'est que c'était un sujet assez important pour vous, puisque ça vient d'une expérience que vous avez vécue. Est-ce que du coup, c'est un thème que vous aviez en tête depuis toujours, de se dire je veux faire un film sur ce thème? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qu'on voulait cacher en disant bah non, j'ai pas envie d'en parler, c'est peut-être un peu trop dur pour moi?
En écrivant les Misérables, il y a maintenant 4 ans de ça, je l'avais vraiment pensé comme une trilogie, puisque je partais du principe que j'avais envie de raconter mon territoire, qui est Clichy-Montfermeil, sur ces 30 dernières années et en faire un constat. Et en écrivant, je me suis dit que j'allais en faire une trilogie et chaque film correspond à peu près à une décennie. Donc Les Misérables, c'était assez actuel. Celui-ci, on démarre en 2005 jusqu'à nos jours, parce que le plan de rénovation urbain, il a mis presque 10 ans à se mettre en place dans notre ville. Et un dernier volet qui sera tourné, j'espère, dans les 2 prochaines années, où là, on raconte plus les années 90. Donc cette trilogie raconte 30 ans d'histoire de nos quartiers.
Je parlais du jeune imam tout à l'heure. Vous avez coécrit le scénario. Vous avez découvert Anta à ce moment-là. Je posais la question justement à Anta tout à l'heure de la différence de travailler avec Kim Chapiron ou avec vous. Comment vous êtes passé, vous, de co-scénariste à réalisateur? Quelle est la différence finalement pour vous, fondamentalement, entre votre travail sur le jeune imam et celui-ci?
La différence, c'est que moi, sur le jeune imam, je suis juste scénariste. Donc voilà, j'ai une idée avec Kim, on décide de la développer ensemble, on s'enferme pendant un an, il écrit, et après je lui passe le relais, il s'occupe de la réal. Après, moi, pour mes films, c'est différent. Je les ai créés comme co-scénariste Giordano Giardellini, et que j'ai co-écrit aussi Les Misérables. Et après, c'est des choses que j'aime bien, des fois juste écrire. J'ai co-écrit aussi Athéna avec Romain Gavras. J'ai aussi à côté ma société de production où je produis aussi des films, et notamment le prochain de Saïd Bektibia, qui est un autre membre du collectif Cortrajmé. Je fais un premier long métrage avec Goldship Tefarani, donc voilà, là où je suis aussi en copro. Donc moi, ça m'éclate de pouvoir partir sur plein de projets avec mes potes du collectif.
Max, tu avais une question ?
Moi, j'avais une question beaucoup plus terre à terre sur le budget. A priori, il y a eu un budget pour Bâtiment 5 qui était supérieur nettement à ce que vous aviez eu pour Les Misérables. Comment on démarre du coup un projet quand on voit qu'on va avoir le double, un budget qui va être 2 fois plus grand que le précédent ?
Nous, quand on écrit ce scénario, on part du principe qu'il n'y aura pas spécialement de budget. Mais clairement, on se dit voilà, on aura peut-être. Avec le succès des Misérables, on s'est dit qu'on aura un peu plus, mais je partais du principe qu'on n'aura pas non plus un budget énorme. Donc quand j'écris mes films, je pars toujours du principe que ça reste des petits films pas chers. Et là, on a eu la chance quand même d'avoir un budget correct, enfin, presque normal pour ce genre de film. Et ça permet d'être plus confort, d'avoir des plus grandes équipes, de payer plus de figurants, d'impliquer aussi les habitants, parce que pour moi, ça me tenait à cœur de faire bosser tous les habitants. 80% des acteurs du film sont issus de mon quartier. Et je partais du principe qu'avec Les Misérables, on a eu très peu d'argent pour le faire. Donc tout le monde a joué le jeu, des techniciens aux figurants, mais vraiment, tout le monde l'a fait avec le cœur. Et l'idée, c'était de reprendre tous ceux qui avaient bossé sur Les Misérables pour qu'ils puissent aussi bosser sur Bâtiment 5 et en étant mieux payés.
C'est vrai qu'il y a toujours cet esprit de troupe, et en même temps, ce qui est aussi fascinant aussi, c'est de voir à quel point vous arrivez avec des acteurs confirmés ou de nouveaux acteurs à mélanger tout sans qu'on voit la différence, en fait. C'est ça qui est très étonnant. C'est difficile, ouais. J'imagine.
C'est pas évident, mais moi j'aime beaucoup bosser avec des acteurs non professionnels, parce que je pars du principe qu'il y a toujours un truc très naturel qu'on retrouve, très réaliste. Et moi, sachant que je viens du documentaire, avant de passer à la fiction, donc j'essaie de garder ce côté documentaire dans ma fiction, en ayant des persos qui vivent les choses. Et pour moi, c'est important de les mélanger aussi avec des acteurs professionnels. Voilà, le mélange des deux, on arrive à chaque fois à avoir un truc très authentique.
Vous parliez de documentaire, et là pourtant il y a vraiment un côté moins caméra épaule, on va dire, que dans Les Misérables, plus posé, presque plus une forme de classicisme hollywoodien, si j'ose dire. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui n'était pas forcément dans Les Misérables de ce point de vue-là.
Bien sûr, après c'était un pari, on s'est dit avec mon chef-op Julien Poupard, cas, la volonté, c'était d'élever le niveau en termes de réal, de mise en scène. Donc, sachant qu'on a eu les moyens, donc on s'est fait assez plaisir. On a tourné en moyenne avec 3 caméras, on a eu des drones, on a eu une grue, donc on a quand même eu plus de 200 figurants. Donc ça permet de faire d'autres propositions. Et comme je l'ai dit, j'avais pas envie de refaire un deuxième Misérable à l'épaule. Donc là, on s'est fait plaisir en ayant plus de moyens.
Vous, Nabil, vous suivez du coup l'Adjali depuis Les Misérables,
depuis qu'on est né.
Depuis que vous êtes né.
C'est à peu près.
Et comment vous voyez justement cette évolution là dans sa façon d'appréhender les films?
Après, les gens le voient par rapport aux Misérables. Moi, je ne le vois pas que par rapport aux Misérables. Ouais. Moi, je l'ai vu vraiment dans ses débuts avec sa petite caméra qu'il avait achetée à l'époque. Il y avait un bout de scotch encore dessus. Donc, nous, on l'a connu à cette époque-là et c'était autre chose. À l'époque, les gens le prenaient pour un fou. Carrément, ah ouais. C'était impressionnant. Ouais, il était toujours avec sa caméra et il filmait tout. Donc, après, voilà, c'est du boulot. C'est beaucoup de travail. C'est quelqu'un d'acharné quand il bosse et franchement, je peux que lui tirer mon chapeau parce qu'il retransmet ça après aussi, même dans ses films. On sent cette force et ce côté de travail fait avec le cœur et il transmet ça à toute l'équipe. C'est-à-dire que quand on est sur le tournage, je pense qu'ils ont dû vous le dire, on se sent en famille, mais on se sent aussi porté par son énergie à lui. Donc,
c'est ce qu'ils nous ont dit, je confirme.
C'est ça, donc on se sent porté par son énergie et ben, on se donne à fond naturellement. Et franchement, c'est pas parce que c'est mon frérot. Donc, voilà, y a pas
merci Nabil, merci.
Mais, mais sincèrement, ouais, travailler avec lui, c'est que du plaisir. C'est vraiment que du plaisir.
Ben écoutez, en tout cas, ça donne envie aussi, j'espère, pour ceux qui nous écoutent, d'aller voir le film. On va tout de suite enchaîner par un petit moment détente avec le quiz de Max. Max qui pose chaque semaine 2-3 questions. Alors, vous pouvez bien sûr tous y participer autour de cette table. On va voir de quoi il s'agit cette semaine.
Alors, quiz très rapide. La semaine dernière, j'ai pas pu le faire et on avait l'équipe de Mars Express.
Je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs ce film, mais n'hésitez pas à y aller. Un beau film de SF français, c'est rare.
Et donc, j'ai une question spéciale pour la sortie de Mars Express. C'était entre Mars Attack et Midnight Express, d'après vous, quel film a fait le plus d'entrées en France?
Pas évident, Mars Attack.
Tout le monde dit Mars Attack, moi je pensais aussi. Non, 6 millions d'entrées pour Midnight Express, c'était un énorme succès.
6 millions d'entrées.
C'est un chef-d'œuvre aussi. Midnight Express,
Et 2 millions 2 pour Mars Attack, donc c'est Midnight Express qui gagne. Et une deuxième question qui va prendre un tout petit peu plus de temps. D'après vous, combien de films Les Misérables sont sortis en France depuis le premier sorti en 1953, donc il y a 70 ans?
Je dirais 3 ou 4, non?
Plus, je dirais plus.
Donc on parle bien de films avec pour titre Les Misérables.
Ouais. Film seulement ou téléfilm aussi? Parce que si on
film sorti au cinéma.
Au cinéma.
Une quinzaine, allez.
10, ouais, je dirais 12. Ouais, allez.
Est-ce que tu as la réponse, Max?
Il y en a eu 7.
Ah, ouais, bah, quelqu'un avait dit 7, non? J'aurais les fins. Ah, bah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Bonne réponse.
Et celui de Lajli, donc, a le troisième score le troisième meilleur score au box-office en France sur les 7. Sachant que le premier, c'est celui qui est sorti en 58 avec Jean Gabin qui avait fait plus de 9 millions d'entrées. En deuxième, c'est celui avec Lino Ventura, réalisé par Robert Hossein en 82 avec 3,8 millions. Et en quatrième place, c'est celui de Claude Lelouch avec Jean-Paul Belmondo. Donc vous avez battu Claude Lelouch et Jean-Paul Belmondo, là, qui avait fait 1 million d'entrées.
Même si, bien sûr, ils n'avaient pas forcément le même sujet. C'était évidemment un clin d'œil au moment des Misérables. D'ailleurs, cette question du titre, je crois qu'elle vous a taraudé un peu parce que le film n'était pas appelé Bâtiment 5 pendant un certain temps dans les line-up.
C'est vrai qu'à la base, il s'appelait Les Indésirables. Et finalement, on a gardé le titre à l'international. Et
c'était Bâtiment 5.
Bâtiment 5.
Et c'était finalement ce qui vous tenait à cœur initialement aussi, puisque c'était votre bâtiment.
À la fin du montage, je me suis dit que finalement, j'avais envie de l'appeler Bâtiment 5. C'était une façon de rendre hommage à ce fameux bâtiment.
Et ça permet de signifier aussi que ce n'est pas vraiment une suite de Les Misérables.
Exactement.
Très bien pour ces précisions. Alors, on va tout de suite enchaîner avec le Box Office France. On fait un petit jingle de pause et bien sûr, vous êtes invités à réagir à tout ce qu'on va dire. C'est parti.
C'est hyper beau le cinéma.
On va attendre les chiffres impatiemment.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Et accrochez-vous. gros week-end, comme tu le dis, Charlotte. Charlotte, on est sur un total, en tout cas en comptant les avant-premières, je ne sais plus si on le fait ou on ne le fait pas habituellement, à plus de 2,5 millions d'entrées. Donc il faut savoir que c'est plus de 5% par rapport à la semaine dernière et plus 28% par rapport à la même semaine de 2022. Donc on est plutôt sur une pente plutôt positive sur le marché. Il faut savoir qu'on a 4 titres au-dessus des 100 000 entrées en comptant les avant-premières de Wish, sur lesquelles je reviendrai juste après. Et on a 4 films français dans le top 10, donc ce qui est quand même plutôt pas mal, avec notamment l'Abbé Pierre qui arrive en 5e position. Les avant-premières de Wish, je voulais faire une petite parenthèse parce qu'on n'a pas l'habitude de parler des avant-premières, en tout cas sur le retour du Top Weekend, mais il faut savoir qu'elles sont assez impressionnantes parce que le film a été montré uniquement sur la journée d'hier, donc dimanche, sur plus de 1000 séances. Et il faut savoir qu'ils ont récolté à peu près 135 000 entrées, ce qui les positionne directement, en tout cas si encore une fois on inclut ces fameuses avant-premières, pardon, en 3e position du marché. Il faut savoir que c'est assez fort, c'est le retour un petit peu du Disney de Noël qu'on n'avait pas eu l'année dernière. Et si on prend en comparaison, il faut savoir que Le Chapoté, qui était le gros film d'animation de l'année dernière, était aussi présenté en avant-première, mais sur 2 jours, donc samedi, dimanche, là où Wish n'a été présenté que sur le dimanche, et là où Le Chapoté ne récoltait qu'à peu près 100 000 entrées, sur une journée, Wish l'a battu de 30 000 entrées. Donc c'est assez impressionnant. Grand gagnant de ce week-end,
bah
Charlotte.
Oui, surtout le très très grand gagnant, hein, c'est Napoléon évidemment, avec plus de 660 000 entrées à l'issue de son premier week-end. Donc le pari est réussi évidemment. Par rapport aux autres acquisitions Apple, hein, la dernière en date étant Killers of the Flower Moon qui faisait 328 000 entrées à l'issue de son premier week-end. Donc c'est nettement au-dessus. Sony Pictures bat à plate couture Paramount. Par rapport à Oppenheimer, il démarre donc 22% en dessous, mais Oppenheimer évidemment c'était quelque chose, hein, qui démarrait avec 842 000 entrées. Par rapport au démarrage des Ridley Scott, il est clairement au-dessus de House of Gucci évidemment, et c'est le meilleur démarrage depuis Seul sur Mars qui était sorti. Et en deuxième position, on a un film de franchise, Arthur.
En deuxième position, donc, on a Hunger Games, la continuation, donc, qui arrive sans grande surprise on va dire, vu que c'est la deuxième grosse proposition du marché avec 322 000 entrées pour son deuxième week-end. Il est juste en dessous du million, il est à 935 000. C'est plutôt positif parce qu'il faut savoir que le film, si je ne dis pas de bêtises, le film arrive juste, et même le deuxième week-end du film est supérieur au premier opus de la franchise Hunger Games, ce qui est plutôt positif dans ce marché.
Arrive en troisième position, toujours magnifique parcours, hein, pour Le Garçon et le Héron, donc le Miyazaki sorti par Wild Bunch, qui va rajouter 117 000 entrées à l'issue de son quatrième week-end pour atteindre un score de 1 348 000 entrées, donc c'est très très bien. C'est la plus petite baisse du top 10 à égalité avec Hunger Games, hein, évidemment, puisqu'il fait moins 36% par rapport à son troisième week-end. Et faut savoir que c'est le quatrième meilleur score pour un Miyazaki pour l'instant, hein, parce que c'est le premier à l'issue de son quatrième week-end. Donc quand on voit tous les Miyazaki, ce score-là est le meilleur à l'issue du quatrième week-end, donc à voir s'il va battre un petit peu tout ça, et en tout cas on le souhaite très fortement pour Wild Bunch. En quatrième position, on va passer sur une déception après trois plutôt succès, Arthur.
Comme tu l'as dit et déjà évoqué à l'international, le nouveau film du MCU, The Marvel, arrive en quatrième position avec à l'issue de son troisième week-end 92 000 entrées, ce qui lui fait un cumul de 637 000 entrées. Il faut savoir que c'est le plus petit score des 32 films du Marvel Cinematic Universe. Le film devrait peiner à atteindre les 800 000 entrées. En tout cas, on va suivre ça dans les prochaines semaines.
Vous vouliez rajouter quelque chose peut-être, non, Arthur? Un petit. On pouvait quand même signaler Mars Express, un 10e place de ce démarrage avec 48 000 entrées.
Et je voulais aussi évoquer le deuxième démarrage du classement quand même.
Et voilà, vas-y.
Le deuxième démarrage du classement, rien à perdre. Le film porté par Virginie Efira et distribué par Ad Vitam réalise un démarrage, on peut le dire, en demi-teinte, parce qu'il s'agit du deuxième moins bon démarrage pour un film porté par Virginie Efira depuis Benedetta en 2021. C'est en dessous de L'amour et les forêts, c'est en dessous des Enfants des autres, c'est en dessous de Revoir Paris. Le film devrait arriver à peu près à 250 000 entrées si la tenue continue sur cette tendance.
Et ensuite, Max, ça te tenait à cœur de parler d'un film que tu as vu ce week-end, que tu as beaucoup aimé.
Oui, mais d'abord, on va revenir sur le démarrage de Mars Express qui démarre avec plus de 40 000 entrées. C'est un très bon démarrage pour un film d'animation de science-fiction pour un public adulte. Il démarre mieux que Le Sommet des Dieux qui avait terminé à plus de 200 000 entrées. Donc,
il n'avait que 174 copies. Hein. Il y a ça aussi à signaler. Hein. C'est que ce n'est pas un film qui était aussi exposé que Napoléon ou peu d'autres films.
Exactement. Et oui, Charlotte, un film que j'ai vu. J'ai vu Simple comme Sylvain ce week-end. Et le film continue son excellente carrière. Il continue d'avoir une très bonne moyenne par copie, il continue d'avoir une chute très limitée, et donc il arrive là, il a dépassé les 150 000 entrées à l'issue de son troisième week-end, et pour le coup, on comprend la démarche de Memento, qui a sorti ce film sur une combinaison réduite, et à qui ça a tout à fait réussi depuis trois semaines.
Mais il est passé devant La Passion de Dodin Bouffant, qui était sorti en même temps, qui était jusqu'à présent devant lui, et qui là maintenant, lui, cumule 180 000 entrées. Est-ce que parmi tous ces films, il y en a un que vous avez vu, ou un qui vous a marqué, ou vous attendez peut-être, non ?
Ben moi, j'aimerais bien aller voir le Napoléon.
Ah, ouais. C'est ce que je me suis aussi, ouais. Je me suis dit aussi, Napoléon à voir.
Ouais, pourquoi pas. Film de Ridley Scott, donc qui quand même crée l'événement un peu partout.
Bien sûr, mais après les gens, ils n'ont pas le temps d'aller au ciné quand ils sont en tournée depuis
c'est
trois
ça.
Semaines.
C'est ça,
c'est vrai. C'est vrai.
Oui, exactement. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de voir un peu dans quel état est le marché avant la sortie d'un film. Parce que là aussi, hein, vous avez quand même cumulé pas mal d'avant-premières. Je n'ai pas encore le chiffre, mais il y a déjà beaucoup d'entrées cumulées dans ces avant-premières. Qu'est-ce qui d'ailleurs vous frappe lors de ces avant-premières par rapport à celles que vous avez pu faire sur Les Misérables ? Est-ce que vous voyez une évolution du public, parce que Les Misérables, c'était avant Covid, là c'est maintenant.
C'est vrai que le démarrage des Misérables, il n'était pas aussi terrible que ça. Hein. Clairement, on était très inquiets, on se posait plein de questions. Et là, c'est vrai que Bâtiment 5, ça a démarré vraiment doucement. Et là, on a l'impression que le public est de plus en plus présent. Le film commence vraiment
à exister.
On sent qu'après les projets, les gens sont assez touchés par le film. Donc voilà, c'est un bon départ, on va dire.
C'est quoi vos cinémas de prédilection, ceux où vous allez le plus souvent? On aime bien ici citer des noms de cinéma. Est-ce que chacun peut me dire son nom de cinéma?
Rony Souvois, forcément.
UGC Rony.
C'est ça. UGC Rony.
Pour tout le monde, depuis, ou est-ce qu'il y a d'autres
depuis, bien longtemps.
C'est votre cinéma.
Ah ouais, on est à la maison là-bas.
Aristote.
Pour moi, c'est MK2 Quai de Loire.
MK2 Quai de Loire, d'accord.
Vous avez été présenter le film au MK2 Quai de Loire ou à Rony déjà?
Rony, oui.
Ouais. C'est bien passé, j'imagine.
Au top.
Ouais.
Et vous, Anta?
Pour moi, c'est un peu loin, mais c'est le pâté Montataire.
Ah, mais on peut tout à fait le nommer, le pâté Montataire, qui fait des belles entrées. D'ailleurs, je voulais justement parler du top salle. C'est un truc qu'on n'a pas encore trop mis en place, mais c'est toujours intéressant, je trouve, de savoir quelle salle fonctionne ou non. Et alors, évidemment, le top salle, à votre avis, quelle est la première salle de France? C'est pas vraiment une question piège. Hein.
Les Halles.
Ouais. Bien sûr, toujours l'UGC. L'UGC Les Halles.
Quelle que soit la semaine, quelle que soit l'année, c'est tout le temps Les Halles.
Qui fonctionne toujours aussi bien. Il y a aussi évidemment. Rien pour vous donner un ordre d'idée, hein, sur la semaine du 15 au 21 novembre, Les Halles faisait 46 000 entrées, suivi de L'Homme qui faisait 23 000 entrées, et le Pâté Wilson à Toulouse qui fait 21 000 entrées. Et Montataire ne doit pas être très 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 loin, hein, même si je pense,
ah oui.
Je pense qu'il est quand même derrière Sergi. Attendez, je vais essayer de vous dire ça tout de suite. Non, Montataire, je ne le vois pas.
Ah, puis on veut Rony aussi.
Ouais, Rony, je vais vous dire ça tout de suite. Non, Rony, il est 48e sur la semaine écoulée. Ce qui est, il est juste derrière le Pâté Vez et devant le MK2 Quai de Loire. Tiens, on en parlait à l'instant.
Bâtiment 5 n'est pas encore sorti.
C'est pour ça. Là, ça va. Mais ceci dit, votre remarque est vraiment intéressante parce que c'est aussi, on l'a vu sur Le Jeune Imam d'ailleurs, qu'il y a eu des entrées étonnantes sur certains cinémas et malheureusement pas toujours dans toute la France. Et c'est aussi pour ça qu'on fait nous ce podcast, c'est pour aller à l'encontre des idées reçues où on peut dire vite fait qu'un film n'est pas un succès alors qu'il l'est à certains endroits.
Bah après, c'est vrai qu'il y a eu un gros taf qui a été fait en amont, notamment avec Nabil, le fait de faire un peu le tour des France, d'aller voir, aller à la rencontre des habitants des quartiers. Donc il y a eu, c'est vrai, plein de belles surprises dans plein de salles où on ne pensait pas qu'il y aurait du monde.
Et on va voir, mais effectivement, ce sera intéressant de voir dans quelle mesure Bâtiment 5 dope les entrées, si j'ose dire, de certains cinémas. Quoi qu'il en soit, on va bientôt devoir vous laisser peut-être aller... vous avez encore peut-être 5-6 minutes, le temps de parler de, des films qui arrivent, parce que nous, chaque semaine, on fait un petit sondage Twitter. Alors là, il n'y a pas encore Bâtiment 5, donc on verra, ce sera la semaine prochaine, on vous en reparlera bien entendu. Là, cette semaine, on a fait un petit sondage sur X, donc avec 4 films qui sortent mercredi. La Tresse, Le Temps d'aimer, Perfect Days et Dumb Money. Est-ce que vous avez entendu parler de ces films?
La Tresse. Oui, on l'a vu passer.
Vous n'avez pas vu passer un truc?
C'était plutôt... Une belle bande-annonce, ça donne envie.
Donc La Tresse distribuée par SND, Le Temps d'aimer par Gaumont, Perfect Days c'est chez Haut et Court et Dub Money c'est chez Metro. Et bien parmi ces quatre films, c'est Perfect Days, le film de Wim Wenders qui arrive en tête de notre sondage avec 35% d'envie d'aller le voir, suivi du Temps d'aimer, de Dub Money et de La Tresse. Mais encore une fois, ce n'est pas toujours représentatif de l'ensemble du public national.
Très serré hein, entre Le Temps d'aimer et Dub Money.
Tout à fait, autour de 27 et 25%. Je le disais, beaucoup de sorties de films. Hein, encore autour de 15 sorties, 14 sorties de films cette semaine. Il y a bien sûr la sortie de Wish qu'on a évoquée, La Tresse, vous en parliez à l'instant. Et au-delà des films déjà cités, Thanksgiving, le nouveau film d'Eli Roth distribué par Sony. Sony sur tous les fronts hein, après Napoléon la semaine dernière.
Un film d'horreur interdit aux moins de 16 ans qui est dans le top 10 US.
Ah, moins de 16 ans, moins de 16 ans.
Ouais, moins de 16 ans.
Ouais. Et puis aussi Augure chez Pan, chez Arizona, Les filles vont bien. Conan, qui est une réinterprétation de Conan le Barbare chez UFO, c'était présenté à Cannes. Orlando, ma biographie. Césaria Évora, la diva aux pieds nus. Rêve. Alors moi, je cite tous les films. Vous allez vous dire, mais il est complètement fou. Mais en même temps, c'est tous les films qui sortent parfois sur quelques copies. Édouard Louis ou La Transformation chez Outplay Film. Et j'ai oublié un film chez CGR Event, c'est... Le Noël de Peppa Pig, pardon. Et puis, il y a aussi quelques reprises. C'est vous dire qu'il y a encore beaucoup de sorties. Il y en aura 12 la semaine prochaine pour Bâtiment 5, c'est un petit peu moins. En tout cas, ce sera le 6 décembre. On a envie de vous souhaiter évidemment le meilleur pour cette sortie. C'est un immense honneur pour vous, pour nous, et pour vous, je l'espère, mais pour nous en tout cas, de vous avoir autour de cette table pour ce podcast parce que. Ici, à l'UGC La Défense, vous êtes particulièrement attendu. Je crois qu'après, en plus, vous filez dans une autre salle derrière.
À Nanterre.
Ouais. À Nanterre. En tout cas, allez voir Bâtiment 5 dès sa sortie. C'est vraiment un film, j'ai envie de dire coup de poing, mais c'est pas le terme. Un film qui fait réfléchir, je trouve. Un film qui donne une vision de la France qu'on n'a pas l'habitude de voir ni d'entendre et qui est important. Tout simplement. Donc, allez le voir dès sa sortie le 6 décembre. C'est distribué par le PAC. Qu'on remercie. On remercie Valentin et toute l'équipe du PAC qui nous a permis de faire ce podcast. Merci à tous et à très vite sur Débrief Film.